Vendredi, c'est le jour de notre partenariat avec la radio suisse et l'émission monumentale de Joanne Ducey.
13h30, 14h30, sur la première.
Un jour dans l'histoire.
Le sanctuaire d'Issé est le plus vénérable des lieux sacrés du Japon. Il est unique au monde parce que tous les 20 ans, depuis le 7e siècle, on le reconstruit en entier. Tout est remplacé, les édifices, les ponts, les portiques, les palissades, les objets ou encore les vêtements. Joanne Ducey nous emmène visiter ce sanctuaire mystérieux et peu connu des Occidentaux en compagnie de Jean-Sébastien Cluzel. Il est docteur en archéologie et en histoire de l'architecture. Il a dirigé avec Nishida Masatsugu l'ouvrage « Le sanctuaire d'Issé, récit de la 62e construction ».
Lorsque Christophe Colomb entreprend son premier voyage en 1492, il emporte avec lui le Livre des Merveilles de Marco Polo. Le marchand vénitien, de retour de son long séjour en Chine, y évoque pour la première fois un archipel situé encore plus à l'est, Sipangu, le pays du soleil levant, autrement dit, le Japon. Perdu dans les brumes de l'océan Pacifique, caché à l'abri de la Grande Muraille, la Chine et le Japon apparaissent pendant de longs siècles lointains et mystérieux.
Où se trouve le sanctuaire d'Issé ? Au Japon ? Mais où exactement ?
Alors, effectivement, le sanctuaire d'Issé se trouve au Japon. Il se situe dans la préfecture de Mie, au sud-est de Kyoto, à 150 km environ de Kyoto, dans une ville que l'on appelle Issé, et qui est à quelques kilomètres de l'océan Pacifique.
Sont les lieux, à quoi ça ressemble ?
Alors, ils sont exactement comme on peut les imaginer en se rappelant les caractéristiques des sanctuaires shinto anciens, à savoir les sanctuaires se situent dans des lieux tabous, des lieux dont l'accès est difficile. Dans la religion shinto, un lieu tabou se définit par une montagne, une rivière, une forêt assez dense, donc plutôt sombre. Et en réunissant ces trois éléments, montagne, eau, forêt, impénétrable un petit peu, le lieu devient inaccessible et il se prête au mystère et surtout il devient propice à la venue des dieux sur terre. Dans votre imaginaire, en surdimensionnant légèrement ces éléments, eau, forêt, montagne, hein, par un effet de rêver, vous devriez obtenir une représentation assez juste de ces domaines sacrés que sont les sanctuaires d'Issé.
On dit souvent que c'est le sanctuaire le plus secret du Japon. Qu'en est-il ?
Alors, c'est effectivement ce qu'en disent les Occidentaux, mais ceci n'est pas forcément vrai pour un Japonais. Cette impression peut s'expliquer, je crois, par la taille du sanctuaire. Vous vous trouvez devant une structure monumentale et vous ne pouvez ni vous en approcher, ni y pénétrer. Le secret vous semble aussi grand que l'architecture. Mais renversons la situation. Je vous mets devant un petit reliquaire fermé depuis plusieurs siècles. Pour vous, le contenu de ce reliquaire est mystérieux, mais la taille du secret vous semblera très vite proportionnelle à la taille de cette boîte, finalement petite. Alors, la perception des Japonais est conditionnée par d'autres éléments. Pour eux, le sanctuaire d'Issé n'est pas plus secret qu'un autre sanctuaire shinto, car tous les sanctuaires shinto sont par définition des lieux secrets, du moins des lieux fermés et impénétrables. Un sanctuaire shinto est la maison ou la résidence terrestre d'un dieu, d'une divinité, d'un esprit. Il n'est donc pas question d'y pénétrer, dans les édifices en tout cas, hein, sous peine d'offenser ou de déranger ce dieu. Cette forme de respect fait naître le secret. Et forcément, notre livre et toute notre enquête, hein, par exemple autour de la reconstruction du sanctuaire d'Issé, sont liés, hein, cela ne fait aucun doute, à une envie instinctive de percer les secrets de ce sanctuaire, qui ne sont en fait pas des secrets volontaires, mais des secrets respectueux.
Ce sanctuaire, il est très méconnu en Occident. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui se rendent au sanctuaire d'Issé.
Le sanctuaire d'Issé est connu en Occident surtout par les historiens de l'architecture ou par les personnes qui s'occupent de questions relatives au patrimoine, à la conservation ou à la restauration architecturale. En effet, il y a peu de touristes. Le sanctuaire d'Issé, étant reconstruit à l'identique tous les 20 ans depuis le 7e siècle, il est devenu, pour l'Occident et les spécialistes du patrimoine, l'antithèse et le contre-exemple de nos logiques patrimoniales, et c'est en cela qu'il est connu et qu'il nous aide à réfléchir. Par contre, ce qui est mal connu en Occident, c'est l'ampleur et le gigantisme de ces reconstructions. Notre livre vient donc dévoiler un petit peu tout cela pour mieux faire connaître ce phénomène. Pour répondre à vos questions, oui, effectivement, en Europe, le grand public ne connaît quasiment pas le sanctuaire d'Issée.
Les pèlerins japonais, eux, ils sont très nombreux à s'y rendre chaque année.
Alors, effectivement, les Japonais sont très très nombreux à s'y rendre chaque année, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, mais ils connaissent aussi effectivement mieux le phénomène de reconstruction que nous le connaissons. Mais pour tous ces pèlerins, en fait, cette reconstruction n'est pas forcément quelque chose d'évidente. Si vous vous mettez à leur place, la plupart d'entre eux visitent le sanctuaire d'Issée, mais ne se rendent pas compte du phénomène de reconstruction. Le premier but de leur visite est de rendre hommage à la déesse Amaterasu, la déesse solaire, l'ancêtre de la famille impériale. La reconstruction n'étant visible que tous les 20 ans, ils ont donc peu de chances de la voir. Et les images qui vont se graver dans les esprits des pèlerins ne sont pas liées aux reconstructions. Par contre, pour les fidèles, les locaux, qui rendent à Issée un culte journalier, eh bien la reconstruction, elle, se vit quasiment au quotidien pendant plusieurs années, puisqu'elle dure plusieurs années.
Le Japon doit son nom à deux mots chinois, Ji et Pen, qui signifient le pays où se lève le soleil. Appellation tout à fait logique dès lors que le Japon s'étend à l'est des côtes de la Chine. De toute éternité, le soleil fut ici révéré, et l'empereur décrétait son descendant direct. Tous les Japonais se considérant comme les lointains héritiers de Jimmu, fondateur en 660 avant Jésus-Christ de la dynastie impériale. La nation entière s'affirme liée non seulement à son souverain, mais au soleil lui-même.
Quand le sanctuaire d'Issée a-t-il vu le jour ?
Là, j'ai envie de vous répondre avec le lever du soleil. Autrement dit, il faut remonter à la genèse de l'Empire du Soleil Levant, au 7e siècle après Jésus-Christ. Auparavant, l'archipel japonais était occupé par une multitude de clans, souvent rivaux, et c'est au 6e-7e siècle que l'un d'entre eux réussit à s'imposer aux autres et qu'il va, au fil des siècles, devenir cette maison impériale que nous connaissons aujourd'hui. Le sanctuaire d'Issée est le sanctuaire familial de ce clan ancien qui est devenu la maison impériale. Donc le sanctuaire d'Issée est un sanctuaire qui appartient à la famille impériale, qui est né avec elle, qui est donc né avec le pays et la nation.
Le fait religieux au Japon est essentiel. Il puise ses racines dans le shintoïsme, ensemble très ancien de croyances diverses, qui assure le ciment social en établissant la consanguinité du peuple avec l'empereur, et par lui, avec le soleil.
Mais on l'a construit dans quel but, ce sanctuaire d'Issée ?
Dans la religion Shinto, le sanctuaire est une demeure temporaire pour une divinité. Les divinités ne vivent pas sur Terre. Elles rendent visite aux hommes. Donc pour les accueillir, les hommes leur construisent une maison ou un palais. Et dans les temps anciens, c'est avant le 7e siècle, quand la divinité repartait dans son royaume céleste, on abandonnait le sanctuaire et vraisemblablement l'édifice que l'on avait conçu pour la recevoir. Quand la divinité revenait sur Terre, à la saison suivante par exemple, eh bien naturellement, on lui reconstruisait une nouvelle demeure. Mais à partir du 7e siècle, en s'imposant aux autres, le clan de cette future maison impériale voulut asseoir son pouvoir dans le temps. Et pour cela sans doute, ceux que l'on appelle les premiers empereurs du Japon œuvrèrent pour pérenniser les sanctuaires. Comme partout et dans toutes les civilisations, la force et le pouvoir militaire ne sont pas des choses pérennes. Par contre, les cultes, et avec eux la construction et l'entretien des églises, des temples ou des sanctuaires, participent à créer des sociétés durables en leur donnant une certaine cohésion, chose que les grands chefs japonais savaient et qu'ils ont fait appliquer. Et donc parmi les sanctuaires Shinto, le sanctuaire d'Issée est naturellement le premier sanctuaire fixe dans l'archipel, c'est-à-dire le premier sanctuaire dont la construction devient pérenne.
Sur l'autel de la divinité, sous l'escalier, auprès de la tablette du grand sanctuaire d'Issée, étaient disposées des photos de leurs majestés impériales. Et régulièrement, tous les matins, avant de partir à son service, le lieutenant s'arrêtait avec sa femme en ce lieu consacré. Et tous deux courbaient profondément la tête. Yukio Mishima, patriotisme, 1960.
Il y a plusieurs cultes.
Difficile de répondre. Donc, les sanctuaires d'Ise relèvent du shintoïsme, qui est la religion autochtone du Japon. Pour petit rappel, c'est entre le 5e et le 7e siècle que le bouddhisme s'implante au Japon et qu'il est importé depuis la Chine et la Corée. Tandis que les cultes locaux, qui sont des cultes claniques, des cultes des ancêtres ou des cultes animistes, eux sont répertoriés à cette même époque, ils sont restructurés et organisés par la famille impériale. Bref, ils sont en quelque sorte réformés pour devenir ce qu'on appelle le Shinto ou le shintoïsme. Mais dans ce shintoïsme, on a d'innombrables divinités.
Le sanctuaire d'Ise, est-ce qu'il est composé de plusieurs sanctuaires ?
Il y a de nombreux sanctuaires, mais il y a deux sanctuaires principaux. Ce sanctuaire d'Ise, on l'appelle le Ise-jingu, ou tout simplement le Jingu, c'est-à-dire le grand sanctuaire d'Ise. Il y a deux sanctuaires principaux, mais ce sont les deux que l'on voit toujours, mais en réalité, il y a 125 sanctuaires. Et tous ces sanctuaires donc, ne sont pas sur un même site, mais ils se répartissent sur un territoire qui est l'équivalent d'un département français. Donc c'est gigantesque. Et chaque sanctuaire se compose de plusieurs bâtiments. Alors, je ne saurais pas vous dire combien il y a exactement de bâtiments, tellement ils sont nombreux.
Les deux sanctuaires majeurs, comment sont-ils ?
Il y a le sanctuaire intérieur et le sanctuaire extérieur. Le premier, le principal, le sanctuaire intérieur, qu'on appelle le Naiku, est la résidence de la divinité Amaterasu, la déesse solaire, qui n'est autre que l'ancêtre de l'empereur du Japon. Et le second, le Geku, le sanctuaire extérieur, sert de résidence à la divinité Toyouke Omikami, la divinité de la nourriture. Alors, il faut bien comprendre ce que représentent ces deux divinités, parce qu'elles sont intimement liées. La divinité solaire représente la vie, le jour, la lumière, et elle est entre autres nécessaire à la croissance des plantes, enfin à tout ce qui représente la vie. Quant à la seconde divinité, la divinité de la nourriture, elle incarne ce qui a permis à la société japonaise de se développer, de devenir une nation, c'est-à-dire la riziculture. Pour revenir à nos deux sanctuaires, intérieur et extérieur, ils sont distants l'un de l'autre d'environ 7 km, chacun est la résidence d'une divinité en particulier, mais ces divinités, elles se promènent, elles se visitent entre elles. Et pour illustrer un peu ces propos, il faut imaginer, la déesse solaire prend 2 repas par jour chez son alter ego, la divinité de la nourriture, et pour que ces repas soient plus sympathiques, 4 autres convives du même rang se joignent à elle. Ce que je voudrais vous faire comprendre par cette anecdote, c'est que ces deux grands sanctuaires sont des maisons, sont les palais des divinités. Or, ces divinités sont à l'image de l'homme. Les divinités ne se mélangent pas à l'homme, mais comme lui, elles mangent, elles s'habillent, elles écoutent des musiques et des chants que leur offrent les prêtres et les pèlerins. Les sanctuaires, dans leur architecture, sont donc des palais, avec toutes les fonctions d'un palais. Les sanctuaires sont un petit peu tous pareils au niveau de leur architecture. Tous les édifices du sanctuaire sont conçus sur le même modèle. Et pour des raisons d'unité esthétique, mais aussi d'unité religieuse. Et cette unicité esthétique et formelle est assez frappante. On s'y perd un peu. Quand vous avez vu 20 des 125 sanctuaires, vous ne savez plus lequel est le sanctuaire de tel nom, lequel est l'autre. On s'y perd vraiment. Et pour qualifier un petit peu ce style architectural, les Japonais ont appelé ça la forme Shinmei Zukuri. Littéralement, la forme de la clarté divine. Cette forme d'architecture est propre au sanctuaire d'Ise et on ne la trouve que là. Alors j'ai oublié de vous dire, ces bâtiments sont construits en bois. Tout est en bois et en bois très clair, en bois blanc. Le blanc de ces bois représente cette clarté. Et aussi il faut s'imaginer donc ces bâtiments très éclatants qui deviennent presque blancs en plein soleil. Et bien dans un climat où le degré d'humidité est tout de même assez élevé, Hein, le Japon est un pays où, où il y a une saison des pluies et donc une humidité d'autant plus importante que les sanctuaires sont près d'une rivière et placés au centre d'une forêt. Et bien sur les sites, l'ambiance lumineuse, hein, je l'ai déjà dit, est donc très particulière et quelques rayons de soleil transpercent la forêt et l'impression qui s'en dégage, c'est que peut-être ces rayons sont émis par la déesse solaire Amaterasu elle-même. Alors, ce que j'essaye de vous faire comprendre hein, par cette description au ton un peu mystique par rapport à la lumière, c'est que cette architecture est une véritable mise en scène qui vient soutenir les croyances et les rituels, à la fois par ses volumes, ses formes, ses enceintes qui racontent le palais terrestre d'un dieu. Et cette mise en scène est parfaite par le choix des matériaux, mais aussi par la lumière sur cette matière, la lumière qui est utilisée sur cette matière, et par tout ce que l'homme, finalement, s'est travaillé pour créer des effets architecturaux. Et c'est en cela que l'architecture d'Issée est extraordinaire. Ici,